l'actualité, la culture, l'histoire, l'économie. Découvrez la Corée sous tous les angles sur KBS World Radio.
Séoul, au jour le jour. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de Séoul au jour le jour. Le distanciel est devenu à la mode depuis le début de la crise du Covid-19. Certains ont hâte de reprendre le cours de leur vie pour privilégier des rencontres en chair et en os suite à l'assouplissement des mesures de distanciation sociale. Mais de nouvelles habitudes ont de fortes chances de subsister sans qu'elles soient imposées pour des raisons sanitaires. Aujourd'hui, en quelques clics, on peut presque tout acheter en ligne. Toutefois, on a besoin de voir de ses propres yeux certains articles, notamment des produits électroménagers qu'on utilisera pendant des années et pour lesquels on doit dépenser une somme conséquente. Mais il n'est pas évident pour les salariés de se libérer en semaine pour cela. Une bonne nouvelle pour eux, LG Electronics a ouvert 6 magasins nocturnes inhabités à Séoul il y a un mois. La journée, ce sont des établissements comme les autres où les vendeurs et autres employés sont présents afin d'accueillir les clients. Une fois la nuit tombée, à partir de 20h30 jusqu'à minuit, 7 jours sur 7, ils se transforment en magasin sans personnel. Ils ne sont pas tout à fait en libre-service. Les clients ne pourront pas acheter de produits en l'absence de vendeurs, mais pourront les regarder, les comparer ou les tester. Pour accéder à ces magasins la nuit, il faudra respecter une procédure. À l'entrée, tout visiteur est amené à scanner un code QR avec son smartphone et à remplir un formulaire de données personnelles de base, sans oublier un auto-questionnaire de santé dans le cadre de l'épidémie du Covid-19. Une fois admis, les clients peuvent regarder et toucher les produits qui les intéressent, sans être importunés par qui que ce soit. Ils se sentent plus à l'aise. Un certain Lee, âgé de 44 ans, s'est dit très satisfait parce qu'il a pu visiter un tel magasin à plusieurs reprises sans se soucier du regard des vendeurs. La part des salariés trentenaires est la plus élevée parmi ces visiteurs nocturnes. Ce service est surtout apprécié par les futurs nouveaux mariés, tels qu'une certaine Han, âgée de 32 ans, qui va se marier en octobre prochain. Elle a pu fréquenter récemment l'un de ces magasins la nuit en semaine. Elle en était ravie parce qu'elle n'a pas besoin de sacrifier un week-end ni de prendre une journée de congé pour cela. Dans ces magasins, on peut trouver partout des terminaux dits kiosques sur lesquels tout visiteur peut se renseigner sur les produits qui l'intéressent ou bien prendre un rendez-vous avec un vendeur pour le consulter plus tard. LG Electronics est la première entreprise de produits électroménagers qui propose un tel service. Elle avait déjà mené un projet pilote et elle en a obtenu des retours positifs de sa clientèle. Ainsi, elle a décidé d'élargir son service nocturne sans vendeur et cela pourrait susciter des émules. On parle d'un éternel retour de la mode lorsqu'une tendance d'autrefois revient en force pour occuper le devant de la scène. C'est le cas pour l'accessoire dit chouchou. Il s'agit d'un tissu cousu sous forme d'anneau, froncé par un fil élastique inséré dedans, dont les femmes se servent pour attacher facilement leurs cheveux. Le chouchou est proposé en divers styles, avec un tissu de couleurs unies, à motifs, de textures singulières, parfois avec des bijoux de fantaisie accrochés. En coréen, il est surnommé « kopchang band » en raison de sa forme onduleuse. En effet, il fait penser au kopchang, l'intestin grêle de bœuf que les Coréens aiment manger en grillade. Cet accessoire de cheveux, rappelé en général les stars de la fin des années 90, telles que Kim Hee-sun, qui a tenu le rôle d'héroïne dans de nombreuses séries télévisées à l'époque. Désormais, il est devenu le chouchou des nouvelles étoiles d'aujourd'hui. En avril dernier, Jennie de Blackpink a posté sur les réseaux sociaux une photo d'elle dans laquelle elle a les cheveux attachés à l'aide d'un chouchou, ce qui attirait l'attention. Depuis, on a pu découvrir plusieurs clichés similaires. La chanteuse IU a mis en ligne elle aussi des photos de sa vie quotidienne dans lesquelles elle porte cet accessoire. Mais comment expliquer ce regain de popularité? Eh bien en fait, le chouchou ne sert pas uniquement à attacher les cheveux. On peut le porter au poignet comme un bracelet lorsqu'on en a envie de se détacher les cheveux. Les femmes l'aiment bien parce qu'il leur permet d'ailleurs de se faire belle sans donner l'impression de se montrer coquette, c'est-à-dire de façon naturelle, sans oublier sa facilité d'utilisation. Avec la crise du Covid-19, les femmes sont nombreuses à étudier ou à travailler à la maison. Ainsi, elles préfèrent le code vestimentaire décontracté, y compris les accessoires de cheveux. Les jeunes femmes sont ravies d'une telle tendance renouvelée. Une certaine Zhang, salariée âgée de 34 ans, s'en est réjouie aussi, parce qu'elle a pu enfin ressortir de son tiroir un chouchou d'une marque de luxe qu'elle a reçu comme cadeau il y a quelques années. Un vent nouveau s'est levé pour rajeunir la classe politique au pays du matin clair. À l'origine se trouve l'élection à la mi-juin de Lee Jun-seok, âgé de 36 ans et sans aucun mandat de député à son actif, à la tête du parti du pouvoir du peuple, le PPP, la première force de l'opposition. D'ailleurs, il avait apporté une grande contribution à la victoire écrasante de son parti aux dernières élections partielles du 7 avril en ralliant la majorité des électeurs âgés de 20 à 39 ans. La Changwade a voulu en tirer une leçon. Pour séduire les jeunes, il fallait quelqu'un qui puisse parler à leur cœur. Ainsi, le président Moon Jae-in a nommé en début de semaine dernière la femme de la situation au poste de conseillère chargée de communiquer avec les jeunes. La nouvelle conseillère s'appelle Park Sang-min. Née en 1996, elle est encore étudiante en dernière année de licence dans le département des lettres coréennes à l'université Korea parce qu'elle a changé d'établissement pour justement intégrer ce dernier, l'un des plus prestigieux du pays. Depuis 2019, elle représentait déjà la voix des jeunes au sein du Minju, le parti au pouvoir. Désormais, elle est devenue la Benjamin du cabinet présidentiel. Sa nomination a fait sensation. Or, elle ne fait pas l'unanimité. Certains jeunes ont jugé ce choix inéquitable. Un internaute qui s'est présenté comme un étudiant inscrit dans la même université que la nouvelle conseillère présidentielle a même créé un site internet baptisé baktalgam.com, entièrement dédié à la dénonciation de cette nomination. Le mot baktalgam signifie le sentiment de privation. Le ton est donné. Le créateur du site explique pourquoi les jeunes se sentent frustrés et démoralisés. Selon lui, Park, la nouvelle conseillère de la Changwade, n'est pas assez qualifiée pour ce poste important en ce qu'elle n'a aucune expérience professionnelle à part les activités en tant qu'adhérente au Minju. Le gérant du site s'est indigné du fait que Park a trop facilement accédé au plus haut échelon de la fonction publique. Il a ajouté à titre comparatif que les étudiants les plus brillants mettent 3 ans en moyenne pour réussir le concours national de l'administration et qu'une minorité des admis commencent leur carrière à partir du niveau 5 sans aucune garantie de monter jusqu'au niveau 1. Il a critiqué aussi l'intéressé pour ne pas avoir su refuser le poste. Il l'a appelé à démissionner de son plein gré et il a exhorté la Changwade à rectifier le tir. Certains voient dans ce lynchage verbal un élitisme machiste. Selon eux, l'âge, le parcours universitaire et la carrière professionnelle ne sont pas toujours déterminants. Il faut prendre en compte aussi la philosophie et l'engagement de la personne en question. D'autres pointent du doigt le manque de transparence de cette nomination et demande à la Changwade de préciser sur quels critères la nouvelle conseillère a été sélectionnée pour calmer les esprits.
Vous avez aimé, vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr.
Bienvenue si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Seoul au jour le jour en compagnie de Franck Atlani. Depuis 2014, tout propriétaire d'un chien a l'obligation de l'inscrire au système d'enregistrement des animaux de compagnie. Ceci nécessite d'insérer dans le corps de l'animal une puce d'identification électronique. Ainsi, lorsqu'un chien s'est perdu dans la rue, il est facile de retrouver son propriétaire parce qu'il suffit de vérifier les données stockées sur cette puce. Or, cette procédure d'identification n'est pas obligatoire si l'animal est déjà mort. C'est ce qui est arrivé au propriétaire d'un chien âgé de 6 mois et appelé Lang Lang. Il a perdu son chien à cause d'une erreur de la clinique vétérinaire qui n'était pas vigilante et qui l'a laissé s'échapper par une porte entrouverte. Il a lancé un appel à témoins via la plus grande plateforme de messagerie en ligne du pays pour retrouver son chien, mais en vain. Finalement, il a appris que son chien s'était fait écraser par une voiture sur la route, ce non pas via un organisme public, mais grâce à un citoyen qui lui a signalé l'accident. Comment expliquer cette situation ? En fait, l'animal peut faire l'objet de 2 lois différentes. Lorsqu'un animal est vivant, on lui applique la loi relative à la protection des animaux sous la tutelle du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage des animaux. S'il s'est fait tuer sur la route, on lui applique la loi relative au traitement des déchets sous l'autorité du ministère de l'Environnement. Par ailleurs, les acteurs compétents varient en fonction des routes. Par exemple, s'il s'agit d'une route générale, c'est la collectivité locale concernée qui est en charge de traiter les animaux tués. Tandis que c'est l'entreprise publique de gestion des équipements qui s'en occupe pour une route express et la Société des voies rapides de Corée, la KEC, pour une autoroute. Il faudrait alors leur fournir des lecteurs de puces électroniques d'identification des animaux de compagnie. Mais cela demande de l'argent et du temps. Le ministère estime que ce n'est pas faisable. Faute de mieux, il pourra inviter ces organismes à envoyer les cadavres des animaux au centre de protection animale des collectivités locales concernées. Les associations militantes pour le bien-être des animaux demandent de réviser le mode opérationnel comme suit. Le conducteur qui a tué un animal sur la route déclarera l'accident à la police et puis celle-ci informera les collectivités locales. Et ces dernières vérifieront le contenu de la puce incorporée à l'animal et publieront une annonce sur une plateforme de gestion de la protection des animaux afin de retrouver leurs propriétaires. Mais il a combien de tentacules le poulpe ? 6, 9 ? Comment peut-il ressembler autant à un extraterrestre ? C'est ce que demandent certains habitants du district de Mu'an, dans la province de Jeolla du Sud, en regardant quelques œuvres installées en plein air, alors que leur région est connue pour sa production de ce mollusque à 8 longues tentacules munies de ventouses. Mu'an va inaugurer ce jeudi 1er juillet le parc touristique à thème Noelkil, près de la plage du village Songyeon, dans la commune de Mang'un. On y voit un observatoire haut de 14 mètres et large de 18 mètres, construit sous forme de poulpe. Les visiteurs pourront monter en prenant l'escalier et descendre en glissant sur le toboggan installé autour d'une tentacule de poulpe. Cette installation est conçue comme un nouveau symbole de la région, mais elle laisse dubitatif un bon nombre de riverains, parce qu'elle représente le poulpe avec 6 tentacules au lieu de 8, le nombre réel. Il en va de même pour les dessins illustrés du poulpe dans le parc. Ainsi, quelques personnes ont fait remarquer que cette représentation erronée peut provoquer la confusion chez les enfants sur le plan didactique. En fait, la préfecture de Mu'an était plus ambitieuse. En 2018, elle voulait créer une installation de plus grande dimension symbolisant la région en y investissant 1,5 milliard de won, soit 1,1 million d'euros. Mais elle a dû reculer suite à une vive critique dénonçant un gaspillage budgétaire. Ainsi, elle a remplacé son projet initial de création de parc du poulpe par celui d'un parc à thème. Dans la foulée, elle a réduit de 40% son enveloppe pour l'ouvrage. La préfecture a tenu à s'expliquer. Avant de construire cette installation, elle a reçu de la part de son créateur, 3 versions en simulation représentant un poulpe respectivement à 4, 6 et 8 tentacules. Et selon l'opinion majoritaire, le poulpe à 6 tentacules semblait le plus stable et le plus beau, d'où le choix de la forme actuelle. Une telle polémique n'est pas la première. On trouve une fontaine d'eau potable représentant un poulpe à 9 tentacules dans le parc polyvalent des sports de Mu'an, construit en décembre 2012, où de nombreux événements se déroulent chaque année. S'y ajoute le phare du poulpe haut de 6,3 mètres et large de 5,8, qui a été construit cette année au bord de la mer du village de Dolipo, dans la commune de Heje, avec un budget de 300 000 euros. Il est censé servir à guider les navires et à séduire les touristes. Mais il a été critiqué en raison de sa laideur. Certains disent « la tête du mollusque fait penser à un extraterrestre ». C'est répugnant. Ainsi, les riverains craignent que ces installations ne deviennent la risée de tout le monde à cause de leur forme grotesque. La préfecture de Mu'an souligne que le côté esthétique et artistique a été privilégié, mais son argument semble loin de convaincre la population. Publier un livre, c'est une grande aventure. Ça passe par différentes étapes de décision. Par exemple, quel titre choisir pour le nouveau bouquin ? Une nouvelle tendance, c'est d'écouter l'opinion d'un petit cercle de lecteurs. Ainsi, Wisdom House a organisé en toute urgence un sondage en ligne auprès d'une centaine de lecteurs le 13 mai dernier en postant l'annonce suivante. Chers lecteurs, aidez-nous à choisir le titre du nouveau recueil des essais de Zhang Zhelang. La maison d'édition allait publier à la mi-juin un nouveau livre de cette romancière née en 1984, l'une des étoiles montantes de la littérature qui est connue notamment pour son roman de science-fiction intitulé « L'infirmière Anne-Niang », adapté en série par Netflix avec « The School Nurse Files ». Comme l'auteur et sa maison d'édition étaient à court d'idées, elles ont lancé un appel à l'aide. Quelques titres provisoires étaient en lice. Finalement, le titre définitif est celui-ci. Personne ne peut aimer aussi bien la planète qu'un terrien. Et le livre a été publié le 10 juin dernier pour entrer dans le top 10 des best-sellers. Wisdom House a pu récolter rapidement les opinions parce qu'elle a mené le mois dernier le projet Agent Secret SSA, consistant à faire participer discrètement une centaine de personnes par livre à la publication. Ses lecteurs ne se disent satisfaits en ce qu'ils peuvent lire à l'avance le livre provisoirement broché, recevoir des objets de souvenirs et surtout participer à l'édition. Autrefois, les maisons d'édition se contentaient de distribuer à des lecteurs le bouquin publié en les encourageant à poster leur appréciation en ligne. Aujourd'hui, certaines préfèrent faire participer les lecteurs avant la publication. Elle les invite à choisir ensemble le titre et parfois la couverture du livre, ou encore à relever les coquilles du manuscrit ou d'autres erreurs qui ont échappé aux auteurs et éditeurs. Elles ne craignent pas le risque de fuite avant la publication parce qu'elles confient la mission à une petite minorité de lecteurs fidèles de l'auteur concerné. Elles leur demandent aussi quelle est la phrase du livre qui les a le plus marqués et avec qui ils ont envie de le lire. Et elles utilisent les résultats dans le cadre du marketing. Tout cela tourne autour de l'amour des livres.
Le kimchi est un plat représentatif de la cuisine coréenne. Lorsqu'on parle de kimchi, il s'agit en général du chou pimenté et fermenté, mais en réalité, vu son histoire, il en existe une panoplie à travers le pays. Comme la semaine dernière, Saveur du terroir fera voyager vos papilles pour découvrir divers kimchi, et en particulier des kimchi vieillis bougonji. Notre première destination cette semaine est la ville de Jinju, dans la province de Gyeongsang du Sud. Si on va à Seungsan-maeul, connu notamment comme un quartier abritant la famille Ho, il y a un bouquin secret qui est transmis de génération en génération. En effet, on aurait produit ce recueil de peur que les recettes de la famille ne s'oublient et on aurait voulu partager la culture culinaire familiale avec les descendants. Madame Li, une septuagénaire qui continue de préserver l'histoire de la cuisine en épousant son mari originaire de cette famille, nous fait découvrir les différents menus typiques régionaux. Tout d'abord, avec des herbes comme la rali, touroupe et le padan maui cueilli au printemps, on prépare le changati que l'on consomme tout au long de l'année. On fait bouillir le condiment de changati à base de sauce soja, puis le verse sur les herbes. Bien saumuré, ce changati devient un plat d'accompagnement à ne pas manquer à chaque repas. Il existe un kimchi particulier que l'on prépare à base des œufs de morue. Durant l'hiver, quand la morue est pêchée abondamment, on fait saumurer les œufs du poisson. Lorsque le kimchi est délicieusement fermenté, on les enroule dans une feuille de chou pour préparer le taegwal kimchi. La texture bien croquante des œufs et la saveur délicieuse du kimchi forment un mariage gustatif exceptionnel. Il y a aussi le taegu gajami kimchi. On fait mélanger la morue et la sole fraîche avec le kakdugi, le navet en petits dés assaisonné de manière pimentée. La saveur bien profonde de kakdugi rend ce kimchi au poisson plus succulent. Afin d'apprécier la dorade tomi durant toute l'année, on le fait cuire longtemps en le trempant dans la sauce soja garnie de divers condiments dont le piment. Ce tomjang accompagné au riz cuit à la vapeur est d'une saveur bien simple. Déplaçons-nous au comté de Yangguang dans la province de Jeolla du Sud. Si on va au port de Seoldo, qui traite plus de 30% de la production nationale de poissons saumurés, on peut trouver un marché de jeotgal. Madame Lee, qui vend des jeotgal pour la troisième génération consécutive, utilise ces derniers de diverses manières dans sa cuisine. Quand on prépare le kimchi, on ne manque pas d'ajouter le jeotgal de divers poissons, dont l'anchois, le haranguet et les petites crevettes. Le goût relativement fort de ces poissons est neutralisé par le piment rouge en poudre et le jjokkal rend le kimchi plus appétissant. Vu sa situation géographique côtière, le kimchi de cette région méridionale contient beaucoup de jjokkal. Le plus grand délice de la famille de Madame Lee est le putgochujeot. On commence par préparer le jjokkal à base de différents poissons dont l'ombrin, le haranguet et l'anchois. Ensuite, on y trempe des piments que l'on fait fermenter environ 3 mois. Ce putgochu japchae jjokkal est un menu très convoité par toute la famille. Avec l'ombrine de petite taille séchée sous la brise marine, on prépare le ballinjugi bugunjitim. On fait mijoter à feu doux le poisson séché, le bugunji bien fermenté et les crevettes, et cela devient une sorte d'étouffée qui se démarque par le mariage gustatif entre les ingrédients. Si vous venez au Pays du Matin Clair, nous vous proposons de déguster divers plats préparés à base de mugunji.
Ainsi s'achève votre magazine quotidien Séoul au jour le jour. C'était Nam Yoon-ji à rédaction, Franck Atlani au micro et au Hayang à la réalisation. Je vous souhaite une excellente soirée.